Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Émilie H. Émilie H. est philosophe, maîtresse de conférences à l'Université de Nanterre et travaille sur l'écologie politique. Elle s'intéresse notamment à la question du récit et des imaginaires pour façonner d'autres manières de penser et de dire le monde. Elle questionne les concepts et leurs effets, comme ceux d'anthropocène et d'effondrement, ces grandes notions anxiogènes qui nous placent sur des échelles donnant un sentiment d'impuissance. Elle invite à penser l'avenir sans la notion de progrès, à sortir de l'ensorcellement du capitalisme et de ses rapports de domination, et à retrouver du lien avec le monde sensible en faisant de la place aux émotions. La question du récit et des émotions est aussi au cœur du mouvement écoféministe dont Émilie H. est une des spécialistes en France.
On a justifié et expliqué en partie, on va dire, la disqualification, dévalorisation des femmes en tant qu'elles étaient plus proches de la nature que les hommes. Et inversement, c'est en tant que féminine que la nature également a pu être, à un moment donné en tout cas, aussi disqualifiée.
Mouvement militant né dans les années 80 aux États-Unis contre la menace de guerre nucléaire, l'écoféminisme interroge le lien entre destruction de la nature et oppression des femmes, deux formes de domination qui découlent des mêmes mécanismes et peuvent être combattues ensemble. Il développe une critique de l'idée d'une nature inerte et inférieure qui a été élaborée par la modernité et remet en cause le dualisme nature-culture. Face à la possibilité d'une destruction de la planète, les écoféministes ont revendiqué de se réapproprier à la fois ce qui relève de la nature et ce qui relève de la féminité, par des formes de mobilisation et de récits puissants qui font écho à la situation de mutation écologique actuelle. Avec Émilie H., nous avons donc parlé d'anthropocène, d'effondrement, de progrès, d'écoféminisme et d'autres façons de raconter le monde. Émilie H., bonjour. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'Université de Nanterre. Vous êtes spécialisée en philosophie pragmatique, en écologie politique et vous travaillez notamment sur l'écoféminisme et sur l'importance de renouveler les récits au travers notamment de l'étude de la science-fiction écoféministe. Alors ça me tenait très à cœur de vous rencontrer parce que l'écoféminisme est un mouvement qui est extrêmement mal connu en France et on va revenir aux raisons, et parce qu'il éclaire, je crois, les enjeux contemporains de la crise écologique et peut-être même de la convergence des crises d'une façon nouvelle, en questionnant la façon dont on raconte le monde, sans s'arrêter à l'idée paralysante d'un effondrement. Je voulais savoir d'abord comment vous en êtes arrivé à travailler sur l'écologie, et est-ce qu'il y a eu des moments clés qui ont changé votre vision du monde ?
En fait, c'est intéressant comme question parce que je crois que j'ai eu le même faux départ et pour l'écologie et pour l'écoféminisme, dans le sens où j'ai commencé par, du fait de ma formation en philosophie, à lire des textes qui étaient censés être les textes qu'il fallait lire ou qui étaient les textes auxquels on avait accès dans cette discipline. Et ceux auxquels j'avais accès dans ma discipline en philosophie sur l'écologie ne m'intéressaient pas. Donc j'ai commencé par ne pas m'y intéresser. De la même manière que les textes auxquels j'ai eu accès dans un premier temps pour l'écoféminisme n'étaient pas des textes qui m'intéressaient, et j'ai commencé par ne pas m'y intéresser non plus. Bref, et donc c'est venu par d'autres biais que par le biais de ma formation universitaire et de mon travail. C'est vraiment venu par l'extérieur. J'ai été pendant quelques années militante, notamment à ACT UP, et le lien n'est pas forcément très proche pour certaines personnes, mais pour moi, en fait, c'est aussi par là que j'y suis arrivée, parce que, de fait, il se trouvait qu'aussi, outre ce qui se passait dans le monde, et etc., les seuls hommes politiques qui étaient, hommes et femmes politiques qui étaient proches d'ACT UP, ça a toujours été les partis verts. Et bref, et c'est comme ça aussi qu'à un moment donné, voilà, d'autres façons de penser des questions, de politiser des questions, parce que j'ai pas expliqué les raisons pour lesquelles je m'y intéressais pas depuis ma discipline, c'est qu'en fait, principalement, on va dire dans les années 90, les textes auxquels on avait accès en philosophie ou qu'on nous présentait comme voilà, une grande partie des textes auxquels on s'intéressait sur ces questions-là, c'était des textes dits d'éthique environnementale. Et qui pour moi étaient des textes qui posaient par définition pas de manière politique la question. Et en fait, et qui posaient d'une façon aussi non pragmatique toutes ces questions-là. Donc, et je m'y retrouvais pas et d'un point de vue politique et même d'un point de vue moral. Donc pendant un temps, c'était, j'avais l'impression que l'immensité du champ en philosophie était ça. Bon, bah très bien, mais à ce moment-là, je peux m'y intéresser par d'autres biais. J'avais voulu aussi militer à Greenpeace. Enfin, mais ça passait pas au départ. J'avais pas pensé nécessairement travailler dessus académiquement.
Comment est-ce que l'anthropocène peut se définir en philosophie ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette notion d'anthropocène déjà ?
C'est une énorme question. Alors en philosophie, c'est pas en philosophie que cette notion est née.
Mais c'est une notion qui peut exister dans plein de discipline
qui aujourd'hui existe dans plein de disciplines et traverse plein de disciplines. Ça serait même, on pourrait dire, quasiment sa spécificité. C'est une des choses les plus marquantes d'ailleurs, le fait que, enfin, la rapidité en tout cas avec laquelle cette notion qui est née dans les sciences a été adoptée, adoubée quasiment par les sciences humaines de manière quasi contemporaine de son invention dans les sciences dites dures. Il y a plein de façons dont on pourrait en rendre compte en philosophie. On pourrait commencer peut-être par dire que c'est une manière d'essayer de rendre compte, de proposer un autre type de récit, d'une autre façon de raconter cette histoire, là où on en est aujourd'hui, d'un point de vue écologique, qui prendrait en compte cette question écologique. On pourrait le dire comme ça de manière très minimale, qui introduit aussi, autrement dit, ce champ de la longue durée, finalement dans lequel on n'était plus vraiment, qui réinterroge, qui réintroduit cette question de la longue durée à l'intérieur même de cette question des mutations écologiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, puisque un des questionnements qui traverse cette notion d'anthropocène étant de savoir si finalement ce grand changement, cette grande mutation écologique dans laquelle nous sommes désormais aujourd'hui, à quel moment ça a commencé. Et jusqu'à présent, on avait tendance à dire, non pas depuis toujours, comme, hein, mais depuis, on va dire, la révolution industrielle. Ce qui est très possible, mais simplement, ce qui est une des choses qui me semble intéressante dedans, quoi qu'on en pense par ailleurs, et dont que je peux critiquer également de mon côté, c'est cette dimension-là, de longue durée, à savoir, c'est peut-être cette histoire de révolution industrielle, mais c'est peut-être aussi, à un moment donné, en aval, on va dire, cette histoire de très grande accélération de deuxième quasiment révolution industrielle dans les années 50, qui est aussi extrêmement importante, mais c'est peut-être en amont aussi qu'il faut aller chercher un certain nombre de choses, et ça nous oblige à repenser l'histoire dans laquelle, enfin notre histoire moderne qui nous a amené à cette affaire-là.
On voit aujourd'hui qu'il y a une pensée donc autour de l'effondrement du monde ou d'un monde qui est en train d'émerger fortement. Je ne sais pas si vous avez entendu notre Premier ministre parler d'effondrement de multiples reprises ces dernières semaines. C'est un effondrement qui est déjà en cours pour des millions de personnes et pour le règne végétal et animal. Il y a une grande conscience que ce monde-là est en ruine, de la part aussi de ceux qui souhaitent pas que ce monde change. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de fascination de l'effondrement? Une idée un peu romantique que peut-être tout pourrait aller mieux après?
Je sais pas, ça dépend de qui on parle, et ça dépend qui parle de l'effondrement, depuis quel point de vue, depuis où se placent ces personnes qui en parlent. Pour le coup, la première chose que j'aurais envie de dire, ça serait justement une réponse pragmatique. Si vous me demandez ce que c'était, c'est peut-être que ce sera la meilleure façon de vous y répondre. C'est quels sont les effets de cette notion-là pour penser ce qu'on pense, pour agir, de façon adéquate à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et c'est pour moi la seule question qui m'intéresse par rapport à cette notion d'effondrement. Après. Elle s'inscrit. Enfin, je veux dire, je suis pas historienne, mais j'ai des amis et des amis eux historiennes qui souvent me font ralentir et me disent, tu sais, il y a rien de nouveau sous le soleil, ou en tout cas, c'est pas si simple que ça, etc. Et elles ont bien raison, à savoir qu'on sait très bien que notamment en ce qui concerne ce genre de pensée de fin du monde. C'est une très longue histoire, c'est pas du tout nouveau. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, l'effondrement est très proche de formes de millénarisme d'aujourd'hui. Après, une fois que j'ai dit ça, c'est pas une fin de non-recevoir, c'est toujours pareil. Quels sont les effets de cette affaire-là? Et c'est ça qui m'interroge. Si ça a pour effet, je pense que c'est ce qui est souhaité par ceux qui défendent cette idée et qui souhaitent la partager ou la diffuser. Si ça peut véritablement avoir pour effet des changements radicaux, pourquoi pas? Maintenant, je pense pas que ça va venir comme ça, en fait. Et j'ai plutôt peur que, j'ai plutôt peur d'effets assez négatifs de cet effet-là. Quoique, par ailleurs, je puisse partager une grande, voire une immense partie des thèses qu'ils peuvent défendre. Mais je suis pas sûre. Pour moi, c'est une façon très dépolitisante, en fait, de poser le problème. Et ça me pose plein de problèmes. Que c'est pas chacun pour soi, à des petits niveaux micro-individuels, quand bien même toute cette dimension-là est tout à fait nécessaire, mais qui sera suffisante pour... me semble-t-il changer la question. Ça, je veux dire, j'ai jamais entendu chez les défenseurs de cette notion-là, où j'entends plus ou disparaît pour moi un peu trop, en tout cas, le type de conflits sociaux inouïs dans lesquels nous sommes face à cette question écologique. C'est-à-dire qu'on est face à des multinationales, qu'on est face à des États qui en ont rien à faire. On parle de Trump, mais parlons de Macron, c'est absolument la même chose. Donc à un moment donné, je sais pas si cette notion-là peut aider. Et d'ailleurs, ce que vous venez de me dire, pour moi, va exactement dans mon sens. Si même le gouvernement Macron est capable de récupérer cette idée, c'est qu'elle est récupérable. Et je suis pas sûre donc qu'elle ait une efficace nécessaire. Par ailleurs, si je peux encore ajouter quelque chose, ce qui peut un tout petit peu me gêner, même si, encore une fois, c'est plus une... Je ne jugerai finalement qu'au niveau des effets. Mais quand je vous parlais de millénarisme tout à l'heure, c'était pas complètement gratuit. C'est que j'entends souvent dans la façon dont c'est aujourd'hui un petit peu diffusé une forme de prosélytisme, quasiment qui me gêne un petit peu. C'est au sens j'ai l'impression on n'est plus en train de nous prêcher la fin du monde. Attention, convertissez-vous, la fin du monde approche. Mais je vais vous le démontrer scientifiquement. Ça revient exactement au même. Et je m'interroge beaucoup. Encore une fois, quand bien même le type de thèse. De diagnostic, on va dire, sur le monde est complètement partagé, je pense, par la plupart d'entre nous. En revanche, en tirer ce type de proposition ou de thèse pour espérer en sortir, je suis très sceptique, mais tant mieux si je me trompe. Voilà.
Et est-ce que vous pensez beaucoup au monde qui vient? Qu'est-ce que vous imaginez?
Eh ben, vous allez voir que ça va aller complètement dans le sens que je viens de dire, à savoir que je partage leur thèse, puisque j'y pense pas énormément, tellement ça m'effraie. Notamment parce que j'ai des enfants, et que c'est très compliqué pour moi d'envisager la suite. Maintenant, une des choses aussi peut-être, par laquelle je répondrai, et qui à nouveau viendrait finalement aussi nourrir la question précédente que vous me posiez, c'est... ce qui me gêne aussi avec cette notion d'effondrement, c'est que c'est pas du tout situé ni de la part de ceux qui parlent, ni j'ai envie de dire géographiquement, Et on n'est pas tous au même niveau de cet effondrement, pas seulement entre espèces, mais aussi entre êtres humains. Et j'entends beaucoup un peu la complainte de l'homme blanc dans cette affaire-là. À raison, mais en attendant, ça reste la complainte de l'homme. Alors, je sais pas si vous aviez lu c'est un beau texte de Vivero de Castro et de Deborah Danowski, qui sont des anthropologues et philosophes brésiliens, et qui ont écrit un texte aussi sur la fin du monde, en rappelant notamment que ceux qui vivaient aujourd'hui et depuis maintenant des siècles dans un monde d'après leur monde, une fois que leur monde a déjà été détruit, sont les Indiens, notamment d'Amazonie, parce qu'ils travaillent beaucoup sur les Indiens d'Amazonie. Et il y a pas besoin même il y a eux, il y a aujourd'hui tous les migrants qui existent sur cette planète. Bon, et je suis pas sûre qu'on ait ça en tête non plus toujours quand on pense à cet effondrement. On pense à pour plein de raisons tout à fait justes, l'économie va s'effondrer.
Il y a quand même une grande lassitude, je crois, vis-à-vis de l'idée du progrès.
Si seulement.
Bah, une grande partie, enfin, en tout cas, je pense que beaucoup de gens ne croient plus au progrès. Est-ce qu'il faut abandonner cette idée de progrès, selon vous?
Je pense que c'est pas du tout si simple, parce que pour moi, ça peut rentrer dans ce genre de d'émission ou de discussion, s'il y a bien quelqu'un qui a essayé de ranimer de la manière la plus obscène et complètement décalée la flamme du progrès, c'est bien Macron. Moi, c'est un mec des années 50, je sais pas d'où il sort, il a beau avoir 40 ans, il est vieux, comme plus vieux que mes grands-parents, qui sont morts. Les discours, au moment notamment de l'élection présidentielle, c'était des discours de progrès des années 50. Donc je suis pas du tout sûre que cette idée-là soit complètement morte. Après, évidemment, il faut distinguer, et je pense qu'elle est pas du tout morte chez ceux qui sont complètement ensorcelés par le capitalisme. Je crois que, parce que je pense pas qu'on puisse distinguer, dissocier, en tout cas, cette capture par cette espèce de machine du capitalisme et la notion de progrès. En revanche, en effet, je suis d'accord avec vous pour dire que énormément de personnes sont très sceptiques par rapport à cette idée-là. Mais pour autant, là aussi, c'est une chose de pouvoir, d'avoir un rapport critique à cette notion, et puis ensuite de se rendre compte qu'on continue, par exemple, à penser avec des paradigmes qui sont complètement qui ont complètement intériorisé cette affaire de progrès. Et de là à ce qu'on en sorte réellement, c'est un travail collectif de changement de culture immense. Donc, je veux dire, cette affaire-là de progrès, elle est partout.
On voit donc qu'on a un besoin radical de pouvoir essayer de raconter le monde de façon différente.
Sans progrès. C'est une des choses les plus difficiles.
Peut-être apprendre à vivre dans les ruines du capitalisme. Quelles seraient peut-être les bonnes questions qu'il faut se poser? Est-ce qu'il faut se demander comment sortir de ce monde-là? Comment survivre à l'anthropocène? Ou peut-être comment se battre contre ceux qui ont intérêt à ce que ce système continue? Comment trouver les bonnes questions aussi pour avoir les bons combats, peut-être?
Je dirais que on en a quelques-uns c'est même pas des exemples, mais c'est des mises en œuvre déjà de cette, des débuts de réponse ou des formes de réponse à cette question-là. Pour moi, clairement, un endroit comme Notre-Dame-des-Landes, c'est une réponse à ça. Et il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres, et en France et ailleurs, mais la réponse que j'aurais, c'est notamment ce genre d'endroit. Parce que ce sont à la fois des lieux de résistance et de construction, qui n'ont pas seulement un rapport critique, mais qui ont un rapport où ils cherchent à construire quelque chose, et quelque chose qui serait beaucoup moins dépendant de l'État, dont on peut aujourd'hui très difficilement se dire qu'il est complètement indépendant de la question du capitalisme. Essayer de se construire et de retrouver des formes d'autonomie en dehors, encore une fois, de cette économie de marché. Je pense qu'il y a ces formes de radicalité-là qui sont absolument indispensable pour imaginer sortir, trouver des manières. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'ils cherchent évidemment à l'intérieur de ça, c'est pas, ils y trouvent, ils créent de la joie, ils créent des d'autres formes de vie désirables. Et l'enjeu, il est là.
Et justement, qu'est-ce que vous avez pensé de la violence du gouvernement face à Notre-Dame-des-Landes en début d'année? Enfin, justement, parce que c'est peut-être exactement de ça dont on a besoin pour imaginer le monde d'après.
J'en pense à la fois que ça veut bien dire qu'ils sont au cœur du problème, et à l'inverse que cet État a démontré de la manière la plus manifeste à quel point il est en guerre contre ces questions d'écologie, contrairement à tout ce qu'il peut raconter. Ça a montré qu'on est repassé, c'est pas complètement inédit, mais pour moi, repasser un niveau de violence d'État qu'on n'avait pas vu depuis, je pense, les années 50. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est retourné dans un monde de Gaulle, que la parenthèse relative, enfin, qui avait ouvert un certain nombre de choses de 68 aujourd'hui est refermée. C'est des scènes de guerre auxquelles on a assisté là-bas. C'est délirant, et en même temps, je pense que les parties sont bien présentes. Je veux dire, on sait qui est de quel côté.
Alors, du coup, on va passer à l'écoféminisme. Comment est-ce qu'on peut définir déjà rapidement l'écoféminisme? Parce que c'est un mouvement qui est quand même très divers dans ses combats, qu'on peut pas détacher du contexte historique non plus, et qui est très foisonnant dans ses formes.
On pourrait commencer très simplement par rappeler la façon dont il a émergé. En fait, c'est vraiment au départ un mouvement et questionnement courant d'idées collectifs qui a émergé dans les années 80 aux États-Unis face à la guerre froide et la possibilité, dont on se souvient pas toujours, d'une guerre nucléaire. Mais pour comprendre aussi d'où sortaient ces femmes-là comme ça, elles auraient pu sortir nulle part, cela dit, mais je dirais, elles sortent, ce qui explique aussi peut-être qu'elles se sont orientées vers ce type de questionnement, c'est que c'était principal. Enfin, faut pas oublier que la fin des années 70, début des années 80, succède à peine à tout le mouvement anti-guerre du Vietnam, et également, évidemment, les mouvements écologiques des années 70 et les mouvements féministes des années 60-70. Donc, en fait, une grande partie, je pense, des femmes qui ont participé et inventé ce mouvement écologiste sont issues de toutes ces affaires-là. Et face à cette question du nucléaire, en fait, ça les a amenées à poser des questions qui croisaient les différentes luttes dans lesquelles elles pouvaient être, en disant « c'est un même monde, c'est une même culture qui a un rapport à la nature totalement destructeur, qui a une histoire des sciences, une histoire culturelle, une histoire des pratiques, même agricoles, etc., qui a un rapport d'extrême violence, où on considère que c'est ce qu'on appelle la nature est inerte, etc. Bref, d'exploitation totale, hein. Et dans cette même société, dans cette même culture, qu'existe ce fameux patriarcat, qui est un gros mot parfois dans certains milieux, mais qui pour moi n'en est pas un. Et donc d'extrême violence faite aux femmes, auxquelles elles étaient extrêmement sensibles du fait, donc, de ces mouvements féministes. Et elles se sont posées la question, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Quel est le lien aussi? Est-ce qu'il y a des liens plus forts que des formes de contemporanéité ou de juxtaposition entre cette culture mâle, guerrière, ultra-violente à l'égard de la nature et qui, en fait, reproduit absolument la même chose vis-à-vis des femmes?
Ces textes écoféministes, donc, qui sont de nature et de style très variés, qui peuvent mêler, qui sont vraiment non-académiques, qui mêlent de la poésie, de la fiction, de l'histoire, de la philosophie. Il mélange les genres aussi, peut-être pour ne pas s'exprimer dans le langage de la culture dominante et pour pouvoir inventer véritablement des nouveaux récits. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de cette importance du récit dans l'écoféminisme?
Alors, la première chose, et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles, je ne sais pas si on en discutera plus tard, mais je pense de son incompréhension totale aussi en France et de son mépris, c'est que la plupart de ces textes ne sont pas des textes effectivement académiques. Mais ce qu'on a pris comme des formes, des sous-formes d'écriture ou de pensée, c'est un contresens total de ce qu'elles ont pu faire, parce que c'était totalement volontaire que de refuser, en effet, les formes disciplinaires classiques dans lesquelles on met dans des cases et surtout on cloisonne. Précisément, on ne fait surtout pas de politique et de religion, ça marche pas ensemble. C'est un texte politique, c'est un texte politique, un texte religieux, c'est un texte religieux. Surtout pas en mélange fiction et vérité. Enfin bref, c'était le résultat d'un questionnement en réalité extrêmement intelligent, extrêmement puissant, extrêmement politique de l'épistémé moderne dans laquelle on est. Et d'aller jusqu'au bout de cette affaire-là, à savoir que ça suffit pas de la critiquer dans les formes mêmes de cette épistémée, sinon on n'en sort jamais, mais que critiquer réellement ou considérer que cette épistémée est en partie responsable de la situation dans laquelle on est, alors exige qu'on change même d'épistémée. Et changer d'épistémée, ça passe aussi par des formes d'écriture, des formes de réflexion. Donc c'est ces textes complètement hybrides pour nous, assez étonnant, etc. C'est pas seulement lié au fait qu'elle soit militante, il y a beaucoup été militante et académique, mais c'est tout à fait volontaire, sans parler de, je sais pas, toute la tradition états-unienne, par exemple, de poésie et politique qu'on n'a pas du tout en France. Enfin, donc voilà, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles ces textes sont aussi puissants.
Je cite juste un petit passage de l'introduction, donc, du recueil Reclaim. Les écoféministes semblent avoir senti avant tout le monde notre besoin vital d'avoir de nouvelles images à l'esprit, de nous aventurer dans un paysage transformé, de raconter de nouvelles histoires pour nous protéger des récits catastrophistes menant à la démission et à l'abandon de toute résistance dans des situations de désespoir. La culture, écrit Starhawk dans Rêver l'obscur, est un ensemble de récits que nous nous racontons sans relâche et que l'on combat en fabriquant des récits inconfortables et dérangeants au regard de l'imaginaire dominant. Donc c'est complètement ça, quoi.
Oui, absolument. Et elles ont reformulé à leur façon, le problème qui est le leur de cette histoire d'articulation croisée, d'histoire croisée, et de destruction de la nature, et de misogynie, de haine du féminin, etc. Finalement, ce qui appartient à toute la tradition féministe, je veux dire, c'est pas propre aux écoféministes de considérer que y a une histoire dominante, il y a des récits dominants qui viennent écraser ce qui s'est en partie passé, et que une des façons de résister et de se battre contre cette histoire dominante, c'est aussi de revenir sur cette histoire-là et de faire ce que Benjamin appellerait l'histoire des vaincus, ou ce que voilà. Donc en fait, ça fait partie de, enfin ça pour moi c'est né de ça aussi, ça résulte de ça.
Justement, comment donc la destruction de la nature et l'oppression, l'oppression des femmes font partie d'une même culture, et comment la pensée écoféministe articule justement ce lien femme-nature. Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs mouvances, disons. Mais c'est faut bien comprendre ça, parce que c'est assez subtil, et du coup, je pense que c'est pour ça que ça a été aussi mis de côté. Enfin, on va en parler.
Il y a plein de façons, effectivement, de la raconter, mais clairement, pour elle, parce qu'il y a peut-être une trame commune à toutes, quelles que soient ensuite, après, les points sur lesquels elles insisteraient, etc., est lié à le fait de repérer que dans la culture occidentale, si jamais ça veut dire quelque chose, mais enfin malheureusement je crois que ça veut dire aussi quand même un tout petit peu quelque chose, on peut repérer, et pas seulement depuis la modernité, mais même en amont de cela, ce que par exemple une philosophe australienne qui s'appelle Val Plumwood a appelé, enfin a insisté à sa façon sur ce qu'on pourrait appeler une culture dualiste, où on coupe le monde en deux. D'un côté l'esprit, de l'autre côté le corps, d'un côté
le rationnel,
de l'autre côté les émotions, etc., etc. Et ce qu'elle dit très bien, c'est que c'est pas seulement une pensée de la différence ou d'une coupure ou d'une séparation, c'est une pensée, une culture d'une séparation hiérarchique. L'esprit est supérieur au corps, l'âme est supérieure à la matière, quel que soit le type de philosophie dans lesquelles on va, ça fonctionne comme ça. Le masculin, évidemment, est supérieur au féminin, la chasteté est supérieure à la sexualité, enfin, etc.
Et la culture.
La culture, évidemment, la nature, bon, voilà. Et que c'est à l'intérieur de cette espèce de paradigme ou de schéma culturel dans lequel on est, qui est très largement effectivement dominé, comme vous venez de le rappeler, par cette coupure, ce grand partage entre, on va dire, humain et nature, ou non-humain, ou ce que vous voulez, qu'elle repère et qu'elle travaille le rôle qu'a pu jouer à l'intérieur de cette affaire-là, comment la séparation hiérarchique particulière entre, on va dire, le masculin et le féminin.
Face à ça, donc les écoféministes recherchent une articulation positive entre la nature et les femmes, et elles cherchent à se réapproprier et la nature et ce qui relève de la féminité. Et du coup, je voudrais en venir au concept de reclaim, qui est le terme volontairement non traduit, qui est le titre aussi de l'anthologie de texte.
On pourrait dire que cette histoire-là, c'est une histoire de... Je la vois de plus en plus comme un millefeuille. Donc il y a une couche qui se superpose à une autre, qui se superpose à une autre, et toute la difficulté étant d'enlever la première couche pour accéder à la seconde, pour accéder à celle d'après, etc. Le problème étant que à chaque couche, correspondant peut-être à des périodes historiques, des moments, etc., correspond aussi à un certain concept de nature, une certaine conception dans notre culture de la place des femmes et de ce que ça veut dire même femme dans notre culture, et puis une certaine conception des relations entre elles, et que ça change à chaque fois. Et donc à un moment donné, c'est extrêmement difficile de comprendre et de revenir au type d'articulation qui ne sont plus celles que l'on connaît aujourd'hui, qui ne sont pas les articulations modernes. Et c'est ce qu'elle essaie de faire. Or, ce qui les a intéressés, d'une part, c'est à partir de ce constat qui me semble, je pense, relativement partagé par tous, qui peuvent s'intéresser à ces questions et qui sont pas, sexistes ou etc. Que nous sommes aujourd'hui dans une période dans laquelle et la nature et considérée encore par, en tout cas tous ceux qui la détruisent, comme totalement inerte, comme sur laquelle on peut avoir absolument tous les droits. Et la plupart des, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, étant que, à part peut-être une minorité de femmes privilégiées dont je fais partie, qui fait un métier d'homme, à savoir le métier d'homme par excellence qui est celui de penser. C'est la grande thèse de Silvia Federici, qui est une philosophe italienne, le basculement, on va dire, dans le capitalisme, loin d'être un progrès aussi bien pour les femmes que pour la nature, a signé une défaite sans précédent pour la condition de la plupart des femmes et qui est tout à fait contemporaine et parallèle à la question de la nature. Et simplement, une façon dont les écoféministes ont d'expliquer cette affaire-là, c'est que on a justifié et expliqué en partie, on va dire, la disqualification, dévalorisation des femmes en tant qu'elles étaient plus proches de la nature que les hommes. Et inversement, c'est en tant que féminine que la nature également a pu être, à un moment donné en tout cas, aussi disqualifiée. Évidemment, à partir du moment où on pense cela, c'est-à-dire qu'on considère pas du tout, comme dans une version du progrès, même marxiste, orthodoxe en tout cas, qu'il y aurait une forme de progrès des conditions des femmes face à un Moyen-Âge notamment obscurantiste, où ça aurait été tellement terrible, que c'est pas malheureusement, d'une certaine manière, pas du tout comme ça que ça s'est passé, mais qu'au contraire, avec la nouvelle division sexuelle du travail qui s'est mise en place dans le capitalisme, les femmes ont perdu le peu d'autonomie qu'elles pouvaient avoir auparavant, le peu de liberté qu'elles pouvaient avoir auparavant, qu'elles se sont immensément paupérisées, etc., etc. Et que c'est dans le même temps qu'en perdant un certain type de liens que l'on pouvait avoir culturels, notamment avec la nature, qu'on connaît le monde dans lequel on est avec cette révolution industrielle qui est une destruction, un ravage sans précédent de la nature, qu'elle s'intéresse à savoir, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? D'où vient cette disqualification des femmes? Très bien, elle repose en partie sur une forme de naturalisation. Mais ça veut dire quoi? Et est-ce qu'on a pensé ça à toutes les époques? Et c'est là où, évidemment, les choses commencent à se corser, mais deviennent aussi passionnantes, puisque notamment une partie d'entre elles, donc tout le monde ne fait pas... Enfin, voilà, ça dépend... certaines ont fait ce travail-là, d'autres l'ont fait d'une autre façon... d'aller rechercher notamment donc dans ce monde pré-industriel, pré-capitaliste, quelles étaient la place des femmes, quelles étaient les formes de dévalorisation, valorisation culturelle de leur rôle au sein du monde pré-industriel, quel rapport on avait avec la nature, et comment aujourd'hui on peut comprendre ça pour essayer de sortir de ce monde capitaliste dans lequel on est. Donc peut-être qu'une des choses sur lesquelles elles se sont beaucoup intéressées, qui a été souvent peut-être mal compris, mais je pense qu'en ayant en tête cette analyse, enfin cette thèse défendue par beaucoup de féministes et écoféministes, à savoir que, enfin, d'envisager encore une fois l'émergence du capitalisme comme une défaite généralisée, le problème c'est qu'une partie, si on pense pas ça non plus, souvent, c'est que celles qui pensent ça, qui ont le loisir de penser ça, d'écrire là-dessus, etc., sont précisément celles qui ne font pas partie. C'est la toute petite minorité privilégiée qui n'a pas subi ça. Donc on pense aussi de manière située. Donc on le voit pas, on va dire mais pas du tout. Moi ça va. Attends, mais ça va pas. Moi j'ai trop de droits. Ouais, sauf qu'en fait moi oui. En revanche, toutes celles qui sont femmes de ménage, qui sont etc. Non. Il y a une forme de hier qui est très importante pour comprendre aussi pourquoi. On voit pas ça. Ensuite, elles se sont intéressées à ce monde pré-industriel en essayant, et ce qui est pas du tout évident parce qu'on a très peu de choses, on a très peu de traces, l'histoire a été faite par des hommes, beaucoup d'archives sont pas prises en compte, et même quand l'histoire, parce que c'est dans les années 70 forcément aussi qu'il y a eu pas mal de trucs quand même sur, je sais pas, le rôle des femmes au Moyen-Âge, le rôle des femmes dans l'économie de subsistance qui existait avant l'économie de marché, il y a eu un certain nombre de choses, mais qui ont essayé, là aussi, c'est très intéressant, sont, comme si elle n'avait pas donné lieu à quelque chose qui est resté. Donc moi, c'est ça qui est une des particularités de cette recherche, c'est que je travaille beaucoup avec des textes qui ont 30 ou 40 ans, donc qui sont datés. Il n'y a rien de mieux ou de plus qui s'est fait. Donc c'est comme si à un moment donné, le début de cette histoire avait été ouverte dans ces années 60-70, ou réouverte, parce qu'en fait, elle avait déjà... Ça, c'est une histoire qui n'est sans fin. Hein. Et que pour autant, j'ai accès à des textes qui sont extrêmement importants, sur lesquels, quasiment les seuls sur lesquels je puisse m'appuyer, mais bien sûr qu'ils sont datés par rapport à plein de choses en archéologie, en histoire, etc. Mais sauf que mais ça suit pas ensuite.
Vous dites que peu de courants d'idées ont été aussi violemment critiqués que l'écoféminisme, et il y a notamment une critique de l'écoféminisme par le féminisme à cause de cette obsession anti-essentialiste. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ça?
C'est une histoire vraiment très, très compliquée, mais qui me semble essentielle à être démêlée, clarifiée, et il faut que ça soit, je pense, fait par le plus de personnes possible et répété le plus de nombre de fois possible. Bah précisément, si je peux repartir de là où j'en étais, c'est qu'elles se sont intéressées notamment pour essayer de gratter, on va dire, sous la couche, notre histoire moderne récente qui, comme toutes les histoires qui ont vaincu, a réécrit son passé. C'est depuis cette histoire capitaliste progressiste qu'on pense le passé, notamment pré-industriel, comme un truc moins bien que ce dans quoi on est aujourd'hui. Ce qui veut dire que, au lieu de penser ce monde pré-industriel comme le font une grande partie des écoféministes, mais aussi de plein d'histoires alternatives, comme un monde radicalement différent de celui dans lequel on est aujourd'hui, c'est pas moins bien, c'est radicalement différent. Alors, peut-être moins bien certaines choses, mais c'est pas si simple de dire ça. Alors que dans la réécriture un peu mythique de notre histoire moderne qui arrange tous ceux qui veulent la défendre, eh ben, on considère que ce qui était avant, c'était moins bien. Sauf que c'est pas forcément le cas. Simplement, ça veut dire qu'elles se sont intéressées notamment aussi, par exemple, au rôle traditionnel que pouvaient avoir les hommes et les femmes, ce qui existait notamment dans ce qu'on pourrait appeler le patriarcat féodal, qui est un point qui est tout à fait essentiel pour comprendre le type d'autonomie que pouvaient avoir les femmes dans cette société-là. À savoir qu'il y avait effectivement des activités qui étaient considérées comme masculines, des activités qui étaient considérées comme féminines. Par exemple, sage-femme. Donner naissance, c'était des femmes. Après, ces séparations, ces activités et masculines et féminines pouvaient varier d'une région à une autre, etc. Après, je crois que par exemple sur sage-femme, ça a jamais bougé. Le premier accoucheur, en tout cas dans l'histoire, dans notre histoire à nous, il arrive au XVIIe siècle. Je sais pas si vous voyez. Depuis Platon, depuis toujours, les sages-femmes, c'est des femmes, quoi qu'on en pense par ailleurs. Enfin, on peut trouver ça, il y a plein de petits textes où on peut voir que toute l'organisation sociale était nourrie de ce genre de division. Mais c'était des divisions qui étaient en très large partie, on va dire, complémentaires. Et c'était très différent du monde social dans lequel on est aujourd'hui, avec cette coupure privée-publique, domestique, pas domestique, etc., etc. Dans cette version-là, rurale, paysanne, à 90% ou je sais pas quoi, les femmes avaient des activités qui étaient aussi importante et indispensable que celle des hommes. C'est-à-dire si elle tissait pas, il y avait pas de vêtements. Si elle n'allait pas ramasser, je sais plus quoi, dans les champs, il y avait rien, etc. Donc c'était, il y avait pas de d'asymétrie, parce qu'il y en avait une aussi. Hein, j'ai parlé de patriarcat féodal, je suis pas en train d'idéaliser la chose, mais était beaucoup moins fort que cela l'est devenu dans le bouleversement social complètement différent qui est arrivé avec le capitalisme. Sauf que j'en arrive à la question que vous me posez. Une fois qu'on dit ça, et c'est une chose que je comprends de moins en moins en fait à force de comprendre dans l'autre sens, mais c'est que dire ça, c'est pas dire que ces activités sont naturellement féminines. À quel moment des écoféministes ou des historiens ont pu dire ça? Jamais. C'est des données anthropologiques, et c'est pour des raisons anthropologiques et culturelles qu'on peut l'entendre. Je suis très frappée de l'asymétrie qu'on peut avoir entre si on va lire, par exemple, des récits anthropologiques de je sais pas quelle communauté indienne ou de je sais pas quel endroit très exotique, très loin, et quand on vous parle de cette division pré-industrielle du travail, à aucun moment on va dire bouh, essentialiste. On va dire ah bah ouais, c'est d'autres formes, nature culturelle, anthropologique. Évidemment que ça relève de la culture, autrement dit. Pourquoi? Et ça fait partie de cette histoire-là. Jusqu'à quel point on a réinventé, d'un point de vue, dans cette épistémie moderne, notre passé, au point que si on dit ça, nous, on est immédiatement accusé d'essentialisme. Et je pense que une des multiples façons, c'est pas du tout la seule, mais de répondre à cette affaire d'essentialisme, ça serait de dire que c'est une analyse, elle-même naturaliste quasiment, de cette question-là, que c'est qui est dépolitisée, déshistoricisée, désanthropologisée, enfin, etc., etc. Quand les écoféministes se réintéressent à ça, ils disent, mais il faut se réapproprier ça, c'est pas dire, moi, mon être essentialiste, je suis faite pour. C'est de dire, mais attendez, à un moment donné, essayons de comprendre ce qu'on a perdu, par où ça passe. C'est très matériel de dire que ça passe par des activités, c'est logique, en fait. C'est des analyses matérialistes, quasiment marxistes, ou je sais pas quoi. De dire bah, c'est passé par là. Est-ce que ça veut dire qu'elles veulent revenir à ce monde-là? À quel moment elles ont dit ça? Jamais. Et par ailleurs, ça n'a pas de sens. On peut pas revenir à ça. Donc la seule chose qu'elles peuvent faire, et on en arrive peut-être au point auquel vous voulez en arriver, c'est reclaim. Et reclaim, c'est pas revenir en arrière. Elles sont pas débiles. Elles savent que même par ailleurs, ça n'a pas de sens de penser à revenir à quoi en fait. On revient pas en choisissant dans sa tête de revenir de manière individuelle. C'est un monde, par ailleurs avec ses défauts aussi, mais qui est fini, qui est détruit. En revanche, prendre conscience que, de toute cette histoire de disqualification du corps des femmes par volonté à la fois et de l'Église et de l'État de récupérer les pouvoirs que ces femmes-là pouvaient avoir, qui sont évidemment le pouvoir de vie et de mort. De fait, c'était ça. C'est, à un moment donné, en basculant dans ce monde capitaliste qui veut juste de la chair à usine, la question, par exemple, de l'enfantement qui appartenait à ce fameux monde des femmes ou je sais pas quoi, activité féminine, est devenue propriété de l'État. C'est-à-dire, c'est le ventre des femmes, c'est devenu propriété de l'État. Donc, est-ce que ça nous a libérés? Je suis pas sûre. Bon, donc c'est simplement de dire ça et de comprendre que aujourd'hui, ça c'est l'autre point qui fait grincer des dents, mais je pense que c'est extrêmement important de le comprendre pour prendre la distance, savoir un peu ce qu'on en pense. Et ça, c'est une autre écoféministe qui est australienne qui me l'a fait comprendre, qui s'appelle Arielle Salé, qui expliquait que d'une certaine manière, même ça, j'espère que ça ne va pas hurler tout de suite des personnes, mais d'essayer de comprendre tranquillement ce que ça veut dire, que finalement, ce qui est pas du tout, ce qui est finalement très logique, c'est que ce geste qu'a pu avoir une partie du féminisme des années 70, même d'aller jusqu'à rejeter le fait de pouvoir avoir des enfants en considérant que c'était encore une forme naturaliste, c'est dit, on s'est fait piéger. Et quand elle dit ça, est-ce qu'elle dit à un seul moment, il faut que toutes les femmes fassent des enfants et c'est notre... Non, elle dit pas ça. Elle dit en revanche que finalement, on peut voir cet épisode-là comme le dernier bout de ce dont on est dépossédé. Ce féminisme-là qui a pu à un moment donné aussi dire non, mais faut pas faire d'enfants, on n'est pas faites pour ça, c'est pas notre destin, etc. Elles avaient raison parce qu'elles se battent contre un type de discours très moderne qui a amené cette affaire-là. Mais qu'elle ne reclaim pas cette affaire en disant, mais c'est pas votre façon de faire qu'on veut, mais c'est une autre façon et c'est pas de façon, se fait avoir aussi, dans cette affaire-là. À savoir que c'est un féministe très progressiste aussi finalement et qui considère que, s'émanciper, c'est devenir un homme comme les autres. Ce que disent les écoféministes, c'est pas si sûr. Que cette façon même de penser, c'est une façon très moderne. Et que c'est une façon qu'a eu le capitalisme de pouvoir exploiter au maximum tous les corps, etc. Le capitalisme n'a pas besoin de corps féminin et masculin. Il a besoin de corps. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, ça ne veut rien dire de revenir à des mondes masculins et féminins. Mais en revanche, d'avoir conscience de cette affaire-là, de se réapproprier éventuellement son corps, etc. Et ça peut avoir des effets. Je pense que c'est un des points les plus importants aussi pour elle, c'est que c'est par le corps qu'on est en lien aussi avec le monde sensible. C'est par notre corps qu'on peut sentir, qu'on peut donc se réapproprier son corps, c'est absolument nécessaire pour imaginer là aussi inventer, pas retourner à, mais inventer d'autres types de liens avec le monde sensible dans lequel on est.
Et comment vous expliquez que même en ce moment où le féminisme a plus de place et voilà, on en parle beaucoup de féminin, de féminisme en ce moment, mais il y a jamais de question d'environnement, de nature, d'écologie qui soit liée.
Je pense que, alors d'une part, c'est pas complètement vrai au sens où j'aurais envie de dire que ce qui est que, par exemple, je vois il y a des questions de génération aussi. Et je vois aussi bien chez des étudiantes à moi que des jeunes personnes disons de 20 ans, je sais pas, 25 ans qui peuvent que je peux rencontrer de différentes manières autour de ces questions d'écoféminisme, que elles sont pas du tout ça leur pose pas de problème, ces articulations là que je n'ai pas besoin avec elles comme je peux avoir besoin avec des personnes de mon âge, de 40 ans ou même de 30 ans ou de 50 encore plus, de passer une demi-heure à leur expliquer que ce n'est pas de l'essentialisme, bien sûr, et pour elles, on voit même pas la question en fait. Donc c'est très même perturbant, mais c'est donc voilà, ça y est, on peut passer à autre chose. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est pas du tout un lien qui est fait aujourd'hui, mais qui peut refléter je dirais que c'est à la fois la suite de cette la suite de notre histoire du féminisme qui s'est pensé vraiment comme un féministe qui a pensé l'émancipation comme un arrachement à la nature, et en ce sens-là il y a rien de plus moderne, et c'est très difficile de l'entendre et de l'avaler, mais c'est vrai aussi, c'est comme ça. Enfin, je dirais, le geste de la modernité, c'est de rejeter la nature. qu'est-ce qu'a fait le féminisme, c'est de dire voilà, les femmes ne font pas, mais ça peut s'expliquer, on peut comprendre parce qu'on a été associé, identifié, etc. Mais ce que elles font les écologistes, c'est de dire oui, il y a ça, mais faut pas se faire avoir, faut pas jeter bébé avec l'eau du bain. Donc on a été associé et on veut pas et on rejette ou on critique les formes négatives, asphyxiantes, mais non seulement on peut imaginer que, évidemment, on doit trouver d'autres formes de liens, parce qu'on en fait tous partie, en réalité, c'est pas que les femmes. Mais que ça passe précisément par aussi un renouvellement de notre façon de penser le monde sensible. Et que c'est peut-être l'autre raison, je dirais, pour laquelle c'est toujours aussi dissocié, c'est que concrètement, il n'y a pas de pensée de l'écologie collective, en tout cas à un niveau mainstream. Donc voilà, ça reste soit des débats académiques, soit à l'inverse, des débats super alternatifs. Mais ce qui domine les débats mainstream, c'est pas du tout une pensée tout court, et encore moins une pensée radicale de bah en fait, faudrait peut-être repenser complètement notre rapport à la nature, etc.
Justement, comment les textes écoféministes réussissent à fabriquer de l'espoir et comment ça fait écho à notre situation aujourd'hui?
De différentes façons, je dirais. Je prendrai deux exemples. D'une part, premier exemple que je donnerai qui m'a beaucoup intéressée pendant un premier temps en découvrant tout cet immense, je m'emballe, mais enfin ce grand champ, voilà, militant et activiste et intellectuel, c'est le type de manière de réagir qu'elles ont pu avoir vis-à-vis de cette situation absolument dramatique de possible guerre nucléaire. J'ai l'impression que, justement, vous me parliez tout à l'heure de Notre-Dame-des-Landes et de la réaction de l'État, etc. Et ces derniers mois, notamment vis-à-vis de Notre-Dame-des-Landes, mais vis-à-vis de la remise en cause, pour moi, du droit de manifester en France, où on en est à vouloir mettre en garde à vue des personnes parce qu'elles ont du sérum fil dans leur sac, alors que c'est du gazage permanent, etc. Eh bien, je me suis dit très récemment, alors que j'écris sur l'écoféminisme et notamment ces mouvements antinucléaires depuis maintenant quelques années, que je crois que j'avais jamais compris, en fait, en vrai. Vraiment, enfin, je veux dire, intimement, le type de situation coercitive et de peur dans laquelle elle était. J'avais compris, mais de manière un peu abstraite, en réalité. Et que c'est maintenant il me semble vraiment, et je le dis très sérieusement, qu'on est vraiment rentré dans un état très coercitif, même s'il se veut très cool et je sais pas quoi, mais c'est le pire de... Vraiment. Que vouloir aider des migrants, on se retrouve à aller en prison. Quand Greenpeace va sur un toit d'une centrale nucléaire pour dénoncer le manque de sécurité, ils sont accusés de possibles actes de terrorisme. Enfin, c'est du délire, le monde dans lequel. Enfin, c'est complètement délirant. Donc, autrement dit, on est dans un monde où précisément la plupart de nos actes nous engagent beaucoup plus que peut-être parce que le type de liberté collective se sont restreintes que pendant ces 30-40 dernières années. Bref, je dirais que la première, c'est la façon dont elles ont réagi était pour moi très, des façons extrêmement salutaires de réagir. Je vous disais tout début, je crois que j'avais été ACT UP, et finalement la boucle se referme. Parce que clairement, les modes de militance d'ACT UP, que moi j'ai adoré, qui sont très festifs, qui cassaient complètement les codes traditionnels des syndicats où il faudrait surtout pas rigoler, surtout pas être en rose, surtout pas s'embrasser, surtout pas, etc. En fait, ils viennent des écoféministes. Il y a des liens très forts, puisque vous savez qu'ACT UP est né aussi aux États-Unis, juste un peu après, justement, ce moment-là. Et c'était les premières à considérer que, notamment, évidemment, c'est faire quelque chose, mais certainement le faire en essayant de se faisant du bien, en essayant de pas perdre de joie minimum quand on est dans ces situations-là, dans des situations quasiment de mort, ou de possible mort, ça serait le moins qu'on puisse exiger que d'essayer de trouver encore un peu de joie. Et puis l'autre exemple auquel je pensais pour répondre à votre question, c'est que de fait, c'est dans ces textes-là que je trouve précisément le plus de renouvellement et de reformulation. Notamment de nos rapports avec le monde sensible, de notre façon de critiquer de la manière la plus précise et fouillée ce concept moderne de nature dans lequel on est toujours mécaniste, inerte, etc., qui propose d'autres choses, qu'il faut prendre en compte dans cette affaire-là, cette histoire extrêmement importante de cette disparition du féminin, ce rejet du féminin. Quoi que ça nous troue le cul, si je puis me permettre, quoi que ça nous fasse du mal, quoi qu'il faille justement être bouleversé dans nos propres traditions, qui se pensaient et qui le sont en partie de gauche et critiques, etc. Moi, l'espoir, il est là. il est là, parce que c'est en passant par ce genre de choses que peut-être alors on peut véritablement, cette fois-ci, peut-être pas se faire piéger, comme disait Ariel Salé, et proposer des modes de réponse et d'élaboration qui seront pas totalement capturés en réalité par le capitalisme.
Je trouve aussi intéressant le fait que ces textes, ils vont chercher dans la peur et dans les émotions négatives une force et une rage. Et c'est peut-être que ça rejoint un peu le. Bah d'ailleurs, il y a un texte de John M. Macy dans le livre. Ça rejoint un peu le travail qui relie l'éco-psychologie, le fait de faire face à tout ça pour en sortir plus fort et voilà.
C'est, je dirais, l'inverse des étapes du deuil qui sont souvent proposées dans les théories de l'effondrement et qui me posent un énorme problème parce que c'est vraiment des théories psychologiques, pas de comptoir mais quasi, qui ont été elles-mêmes immensément critiquées par beaucoup de psychologues et autres, puisque dans les quatre étapes du deuil, ça serait, je sais plus, la colère et puis après
le déni, colère, le marchandage, tout ça.
Et puis l'acceptation. Elles acceptent pas, il n'y a aucune raison d'accepter. Pourquoi on accepterait quelque chose qui convient pas? Et ça veut pas dire pour autant, puisque c'est ça que nous diraient les effondristes ou je sais pas quoi, vous êtes dans le déni. Elles à aucun moment elles étaient en train de dénier la situation, c'était peut-être même celles qui étaient les plus alertes face à cette situation de risque nucléaire que d'autres apparemment trouvaient finalement à peine problématique. Donc il s'agit en rien de déni. Et on pourrait aussi passer des heures sur ce concept de déni qui est extrêmement problématique pour moi à utiliser aussi dans un contexte politique. Mais bref, donc vous avez raison d'insister là-dessus. C'est l'importance de cultiver sa colère et sa rage comme de les cultiver de manière collective pour que qu'on n'implose pas intérieurement, chacun dans son petit coin, individuellement, par désespoir, justement, de dire, mais de toute façon, vu la situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Et de fait, c'est une vraie question, et ce désespoir est tout à fait légitime à un niveau individuel. Mais la façon dont elles ont effectivement considéré que, bien évidemment, que individuellement, et si on en reste à ce niveau individuel, on reste dans une situation de désespoir ou d'acceptation, ce qui est encore pire pour moi, et que ce n'est que de manière collective que on va politiser aussi ces affaires-là. C'est pas toi ou moi ou je sais pas qui pour des raisons psychologiques à la papa ou je sais pas quoi, ni pour dans sa tête qui considère qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais ça appartient complètement à la tradition féministe de tous ces cercles de femmes dans les années 60-70 qui disaient les problèmes que j'ai avec mes enfants, et en disant en fait c'est pas toi. C'est que c'est le type d'organisation sociale dans lequel on est qui fait qu'en effet on a envie de se pendre quand on est une femme à la maison. Et ben c'est exactement ce qu'elles font en fait, ce qu'elles ont fait d'une certaine manière face à ces peurs vis-à-vis des questions écologiques qui dans les années 70-80, on les regarde, vous citez Joanna Messi qui cite des trucs hallucinants de psychiatres qui quand elles vont les voir en disant mais je suis désespérée que ce monde soit en ruine, en disant mais c'est quoi ton problème avec ton père, ça fait rire, mais c'est dramatique. Ça montre justement à quel point la culture dans laquelle on est a complètement détruit une dimension de ce monde là qu'on ne puisse pas se penser de manière collective et quasiment cosmique ou je sais pas quoi, on le voit à chaque niveau, chaque dimension de l'existence. Et que c'est une des raisons pour lesquelles, justement, on trouve pas de réponse si on se situe pas à ce niveau-là.
Pour finir, peut-être, est-ce qu'il faudrait plus de radicalité dans les mouvements écologiques pour vous?
Moi, je donne pas du tout de leçons et
pas de leçons, mais
je veux dire là, encore une fois, la radicalité. Moi, je la trouve à Notre-Dame-des-Landes, je la trouve à Bure, où je les trouve incroyablement courageux. Et vu ce qu'ils subissent aussi en ce moment, et j'ai des anciens étudiants qui sont là-bas et je suis choquée par ce qui s'y passe, comme beaucoup de personnes. Donc, ce niveau de radicalité pour moi existe. Mais il faudrait juste qu'il se démultiplie.
Ouais. Pour contraindre, je dis pas les responsables, mais certaines personnes qui ont peut-être plus de responsabilités.
Ah ben on les connaît.
Oui. Mais pour qu'ils prennent qu'ils comprennent l'urgence dans laquelle visiblement eux ne sont pas.
Oui, mais je pense que, ça fait partie des débats sans fin sur le capitalisme. Est-ce que contrairement à nos chers hommes politiques qui passent leur vie quand ils veulent nous imposer quelque chose et qu'on veut pas nous dire, en fait, c'est parce que vous avez pas compris, qui moi me rend totalement hystérique. Moi, je pense pas qu'ils aient pas compris. Je pense qu'ils ont très bien compris. Simplement, ils sont pas d'accord. Donc, on n'est pas dans des discussions, on est dans des vrais désaccords politiques face auxquels il y a simplement des combats à mener en réalité. Je prends pas Macron pour un crétin. En revanche, je prends pour un véritable ennemi.
Donc ma dernière question, et je pense qu'elle résonne particulièrement avec le thème de l'écoféminisme, c'est face à ce monde en ruine, comment cultiver la joie ?
Bah comme tout le monde, je pense, en aimant. En aimant.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup à Émilie H pour cette conversation et merci à vous tous pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes, les commenter ou en me mettant 5 étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawel mixé par Paloma Colombe. À très vite !